7h30, merci de rester à l'écoute de France Culture sur les chemins de la connaissance, la suite de la série de Catherine Soulard, Un temps pour la pudeur. Ce matin, le voilé et le dévoilé dans la culture musulmane avec les concours de Mohamed Harkoun, écrivain, et de Noria Alami, écrivain.
Nous nous sommes toujours mariés entre nous. L'inceste est notre lien, notre principe de cohésion depuis l'exil du premier ancêtre. Le même sang nous porte irrésistiblement à l'embouchure du fleuve passionnel, auprès de la sirène chargée de noyer tous ses prétendants plutôt que de choisir entre les fils de sa tribu. Nejma, menant à bonne fin son jeu de reine fugace et sans espoir, jusqu'à l'apparition de l'époux. Et ce sera enfin l'arbre de la nation s'enracinant dans la sépulture tribale, sous le nuage enfin crevé d'un sang trop de fois écumé. Kateb Yassine, Nejma.
La pudeur peut être définie comme l'expression d'une convention liée au fonctionnement d'une société, d'un groupe ethnoculturel. Dans les sociétés où l'islam est la religion dominante, il semble que cette valeur soit essentielle, fondatrice d'un certain nombre d'attitudes et de comportements, révélatrice même du corps social. Sans assimiler le monde musulman à une entité uniforme, peut-on tout de même, Mohamed Harkoun, parler d'une spécificité, d'une suprématie du sentiment de pudeur dans ces sociétés-là ?
Oui, assurément, il y a une spécificité liée à des particularités culturelles, puisque comme vous l'avez défini au départ, toute manifestation de pudeur est liée à des conventions sociales qui se trouvent exprimées dans un enseignement qualifié d'éthique, de comportement de bienséance, et tout cela est parfaitement conventionnel. Et je voudrais corriger d'emblée une impression que pourrait donner votre présentation en essayant de lier cette spécificité à l'islam. J'essaye depuis très longtemps de montrer qu'il est tout à fait faux d'approcher les sociétés où effectivement cette religion est majoritaire sous l'angle islamique, comme si l'islam était également présent dans toutes ces sociétés, dans tous les secteurs de ces sociétés, dans tous les groupes qui composent ces sociétés, et comme si tout ce qui concerne la vie des hommes et des femmes dans ces sociétés provenait de ce que l'on appelle l'islam. Ceci est une image fausse, puisque cette pudeur date d'époques bien antérieures à l'islam. Bien entendu, ceci ne veut pas dire aussi que l'enseignement islamique et l'intervention de l'islam n'a pas son importance. Et l'islam, bien souvent, va venir sacraliser des conceptions, des comportements de pudeur qui préexistaient à sa venue dans un certain nombre de sociétés.
En Occident, on peut dire que les règles de conduite se sont avec le temps assouplies, que par contre, dans certaines sociétés, je pensais justement dire les sociétés islamisantes, les règles de conduite s'étaient retrouvées recouvertes d'une carapace sacrée.
Rigidifiées, oui.
Alors, à quoi tient cette exacerbation ?
Ceci, effectivement, s'impose à tout observateur, même superficiel et rapide, parce que depuis une trentaine d'années, ces sociétés, où encore une fois l'islam est majoritaire, ont utilisé la référence religieuse, donc islamique, à outrance. C'est-à-dire qu'on a voulu repersonnaliser, comme on dit, les sociétés autrefois colonisées, après les libérations de la domination coloniale. Le grand thème de ces sociétés, par exemple au Maghreb, ou aussi au Proche-Orient, c'est de retrouver la personnalité qui a été effacée par le colonialisme. Et pour la retrouver, on met en avant tout l'apport islamique. Donc il y a là un processus extrêmement artificiel et purement idéologique de repersonnalisation par l'appel à l'islam. Mais cet appel, je dis, est artificiel en ce sens que ces sociétés, en réalité, ont coupé avec la culture islamique, avec les enseignements islamiques de l'époque classique, en ce sens que l'étude de la pensée islamique a pratiquement cessé d'être ce qu'elle avait été dans un passé très lointain, puisque ça va jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. Ceci donc est une impression qui peut s'expliquer par l'histoire. Alors, une autre chose, c'est que si les considérations de pudeur ou les comportements de pudeur dans les sociétés occidentales ont tellement changé et évolué, c'est parce que la relation à la morale, a été très critiqué par tous les apports scientifiques de toutes les sciences, vis-à-vis du corps, par exemple, la connaissance du corps par la science, l'intervention, par exemple, de la biologie, mais aussi des autres sciences, ont fait qu'on a une attitude entièrement différente vis-à-vis de tous les comportements autrefois qualifiés de pudiques, puisque ces comportements sont perçus maintenant d'une manière scientifique. À l'inverse, dans les sociétés musulmanes, cet apport d'une modernité scientifique pour changer justement le comportement et les conceptions à l'égard de ce qui a été considéré et continue d'être considéré comme pudeur, ces changements-là ne sont pas encore intervenus pour des raisons de retard historique, pour des raisons d'insuffisance de diffusion de la culture moderne, des sciences modernes, etc. Ça s'explique par là, et vous voyez que là aussi, l'islam n'a rien à voir. C'est tout un ensemble de civilisations, c'est tout un ensemble de cultures qui a existé en Occident depuis le 18e, 19e siècle et qui n'a pas existé dans les sociétés musulmanes. D'ailleurs, on sait que quand on compare les comportements de pudeur en France au temps de Louis XIV et qu'on les compare au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, ça change continuellement à mesure justement qu'il y a pénétration d'une culture moderne qui change complètement le rapport non seulement à la pudeur considérée comme vertu, mais à la morale d'une façon générale. La morale d'une façon générale tend à disparaître des sociétés modernes à cause de cette évolution moderne qui ne s'accomplit pas du côté islamique.
Ces exacerbations dont nous parlions tout à l'heure se sont récemment concrétisées sur un objet bien symbolique qui est le voile, qui posait en quelque sorte le problème de sa pérennité dans des sociétés qui voulaient s'industrialiser, se moderniser. Alors, dans votre livre, Nouria Alami, vous faites remonter cette survivance très loin aux caractéristiques originelles du monde arabe, au système de parenté arabo-berbère, à l'endogamie, aux vieux réflexes bédouins du vivre entre soi, faisant en quelque sorte de la congrégation des cousins, des frères, des oncles, le premier voile de la femme.
Tout à fait. Et à ce niveau-là, je tiens à souligner le fait que j'ai pu, à travers mes recherches, comprendre que ce voile est bien antérieur à l'islam. On le retrouve déjà dans la structure de cette société, comme vous le dites, qui est endogame et qui fait du vivre entre soi le but. La femme devient le noyau, le centre autour de laquelle va s'organiser donc la parenté mâle, qui va être donc son premier bouclier, ses premiers protecteurs. Par la suite, donc, avec l'évolution de cette société et sa sédentarisation surtout, cette protection mâle va être remplacée par des murs hauts et bien élevés qui vont la protéger. Et au fur et à mesure donc de cette libéralisation, donc elle existe quand même, il y a une évolution, cette parenté mâle, ces murs, vont être représentés par le voile qui va permettre à la femme, en quelque sorte, d'évoluer en dehors de son espace, donc dans un espace masculin.
À l'origine, le voile était une protection.
Une protection, comme je vous ai dit, assurée par le groupe mâle. Par la suite, le voile qui a été introduit en quelque sorte par l'islam, c'était en quelque sorte une institution d'une vie privée. Et au début, c'était juste un rideau qui était tiré et qui permettait aux différents hommes qui devaient rencontrer le prophète de le faire derrière un rideau. Et par la suite, ce rideau, en quelque sorte, a été posé sur le corps de la femme pour qu'elle puisse être donc protégée et non pas insultée, comme il l'était arrivé à plusieurs reprises.
Je voudrais ajouter à cette explication une autre explication qui est liée à l'émergence de toute communauté qui, pour être communauté, doit se différencier des communautés concurrentes. L'islam, comme toutes les autres religions, a émergé dans une société où il fallait se différencier en tant que communauté nouvelle des communautés préexistantes. À la fois la communauté arabe qui avait une religion païenne et une culture païenne aussi, et des juifs et des chrétiens. Et par conséquent, pour donner une identité différente à cette communauté qui émerge, il fallait intervenir en premier lieu sur le statut de la femme. Parce que c'est sur le statut de la femme que se portent de préférence toutes les valeurs qui vont ensuite se transmettre et conditionner la socialisation de l'enfant conformément à l'identité nouvelle. Et l'introduction du voile a également une autre fonction, c'est d'imposer une autorité par rapport aux autres, de différencier les femmes du prophète par rapport aux autres, parce que le prophète exerce une autorité au sein du groupe, et il faut que tout ce qui appartient au prophète, par conséquent, revête une distance par rapport aux autres pour sauvegarder cette autorité. C'est une sorte d'emblème de l'autorité.
Et, un signe de noblesse.
C'est un signe de noblesse, un signe de différenciation. De la même façon, au Maghreb, ceux que l'on appelle les marabouts, par exemple, ont une attitude différente du reste de la population dans le village, et ils traitent les femmes selon des règles qualifiées toujours de morales et de religieuses, mais qui en réalité sont des règles qui servent à différencier les femmes des marabouts par rapport aux autres, parce que les marabouts dans le village exercent une autorité à la fois spirituelle et politique. Donc le voile a cette fonction de différenciation d'un groupe par rapport aux autres, et cette fonction d'emblème qui caractérise une autorité exercée par certains par rapport aux autres. Maintenant, le voile peut aussi changer de fonction. C'est ce que nous avons vécu en France il y a 2 mois. Il est devenu un signe de protestation contre une interdiction ressentie comme illégitime et comme intolérable. Et c'est devenu un signe de protestation politique et non plus du tout un signe religieux, comme autrefois. Donc nous voyons là, ça c'est une remarque d'ordre sémiologique dans une société. Par le vêtement, les hommes expriment un certain nombre de messages qui peuvent être des messages culturels, des messages politiques, des messages éthiques, des messages religieux, et selon les circonstances où l'on se trouve engagé, un même signe peut changer de signification et peut porter un message différent.
Elle avait encore les plus belles toilettes, mais trop d'élégantes froissées la repoussaient dans l'ombre avec les 3 ou 4 natives dévoilées. Pas des plus riches, fille de fonctionnaires ou de commerçants que les Européennes ignoraient, que leurs compagnes d'autrefois montraient du doigt par la fenêtre, elles qui ne pouvaient rester cloîtrées ni s'exposer dans l'autre monde, maudites et tolérées comme si leur turpitude méritait considération, ne fût-ce que pour mettre en valeur la vertu de celles qui demeuraient dans leur camp, acceptant la coutume et l'orthodoxie, fidèles au voile et aux traditions. Cette vertu de vierge majoritaire qui fait l'honneur des citadins, laissant licence aux plus belles et aux plus folles de déroger, pourvu que demeure l'ancienne pudeur du clan, du sang farouchement accumulé par les chefs de file et les nomades séparés de leurs caravanes. Réfugiés dans ces villes du littoral où les rescapés se reconnaissent et s'associent, s'emparent du commerce et de la bureaucratie avec une patience séculaire. Ils ne se marient qu'entre eux. Chaque famille, maintenant ses fils et ses filles, inexorablement accouplés, comme un attelage égyptien portant les armes et les principes évanouis d'un ancêtre. Un de ces nobles vagabonds séparés de leur caravane au cours de ces périples que rapportent les géographes arabes et qui, du Moyen-Orient puis de l'Asie, passe à l'Afrique du Nord, la terre du soleil couchant, qui vit naître, stérile et fatale, Nejma, notre perte, la mauvaise étoile de notre clan.
À travers ce voile, s'exprime soit un message comme quoi, quand la femme sort voilée, c'est donc elle est protégée et donc elle doit être respectée en tant que, donc, appartenant à une famille, un clan reconnu. Il peut être par ailleurs utilisé en signe de protestation, en signe de combat. On l'a vu aussi.
Absolument.
Son utilisation.
Absolument.
Durant la guerre d'Algérie.
Oui, oui.
Comment les femmes,
oui, oui,
à un moment donné, se sont voilées alors, oui, qu'on cherchait désespérément à les retirer du clan, du groupe, de, oui, leur maison et à les dévoiler. Et à d'autres moments, toujours en signe de protestation, elles se sont voilées en transportant armes et munitions sous leur voile. Les hommes aussi ont utilisé ce voile pour donc se déplacer incognito.
Oui, oui. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il y a un jeu entre le voilement et le dévoilement qui s'exacerbe au moment des périodes de crise historique ou sociale. Ou,
oui, ça dépend du combat que l'on mène.
Voilà.
Comme il vient d'être dit, les femmes de la Casbah d'Alger, qui, pour suivre le courant révolutionnaire de libération, avait tendance à se dévoiler. Lorsque le général de Gaulle avait rendu sa visite à Alger, ces mêmes femmes ont repris immédiatement le voile et sont venues remplir le forum, toutes voilées et blanches, devant le général de Gaulle pour porter un message politique. C'est très complexe. Et il faut suivre cette complexité. C'est là que c'est intéressant parce que, encore une fois, les attitudes de pudeur, puisque nous parlons de pudeur, sont extrêmement mobiles. Et elles changent constamment de portée et même de contenu selon les contextes où elles s'expriment et selon les visions intellectuelles et culturelles de ceux qui expriment quelque chose lié à la pudeur.
Noria Lamy, vous avez une expérience de clinicienne. Vous avez rencontré des femmes qui vivaient mal leur éducation, une éducation carcan, un peu soumise à l'homme, en quelque sorte, et avec des contraintes de pudeur imposées. Et alors, sous ces attitudes de pudeur souvent pathologiques, qu'est-ce que vous avez trouvé pour vous? Que signifient ces yeux qui se baissent, ces voix qui s'étouffent? Je pense à la petite Sekina, par exemple, qui était venue vous voir, amenée par sa mère.
Je crois qu'il est important de situer un peu donc ces personnes que j'ai vues dans un cadre bien particulier qui n'étaient pas venues pour des raisons de pudeur maladive ou pathologique, des raisons d'ordre culturel. C'est-à-dire que moi, j'ai pu rencontrer cet autre type de voilement, ces autres valeurs culturelles qui rejoignent le voile et qui sont donc le silence, la peur, la pudeur. La voix voilée, comme me disait une de mes patientes, elle avait une voix rauque et un peu cassée. Je lui avais souligné et elle s'est récriée en me disant « Non, je n'ai pas une voix cassée, j'ai une voix voilée. » Soulignant donc à travers cette valeur-là son alliance culturelle au groupe d'origine, donc maghrébin, et surtout à son père. Et tout ça s'inscrit dans une pathologie assez complexe, dans une relation à la culture assez particulière, et qui prend toute sa dimension et sa force dans un contexte culturel qui est différent et qui fragilise le moi de la personne transplantée. Alors vous parliez donc de Sekina, et je l'ai intitulé « Le silence, la peur, la pudeur ». C'est la mère qui disait que la fille doit avoir peur. Une femme qui n'a pas peur n'est pas une femme. Et un homme qui ne fait pas peur à la femme n'est pas un homme. Et donc, elle incitait sa fille à avoir peur des hommes et, au départ, donc de son père. Elle devait donc baisser la voix, baisser la tête quand elle le voyait et inciter le père à jouer son rôle. Et cet enfant m'a été adressé par l'école pour un mutisme.
Oui, bon, c'est une petite Algérienne qui vivait en France et on a l'impression qu'elle se trouve prise dans un étau entre une parole qui est ici valorisée et au contraire, enfin pour la femme en tout cas, prohibée en Algérie.
Tout à fait.
Et qu'elle ne savait plus quoi faire.
Le silence est une valeur, c'est-à-dire que là, on ne donne pas la même valeur à la parole dans nos pays. Savoir se taire, savoir se tenir, savoir rester discrète, c'est une vertu qu'elle enseignait donc de façon très active à sa fille, ce qui ne pouvait pas correspondre avec ce qu'on lui demandait à l'école, donc d'être plus active, de participer à la classe, de parler comme ses petites camarades. Et elle était vécue donc comme en étant en échec scolaire, alors que la mère ne me l'aurait jamais amenée pour ces raisons.
Ce que je me demande, c'est ce qu'il reste de la pudeur d'une femme, de sa pudeur personnelle, une fois qu'elle a été élevée avec des principes généralement donc de soumission à l'homme et de pudeur, ce que j'appelle des comportements de pudeur imposée, hein, de silence. Est-ce que sa pudeur propre ne serait pas celle qui justement l'empêcherait d'exprimer son désaccord avec le corpus des valeurs imposées et le fait qu'elle ne soit pas d'accord avec l'idéal de la société et qu'elle n'arrive pas à exprimer ses désirs et sa propre intimité? Est-ce que c'est pas ça justement sa vraie pudeur?
Il ne faut quand même pas oublier que ces principes dont on parlait, ces valeurs culturelles telles que la peur, la pudeur, le silence, lui sont on l'initie à ces valeurs très tôt, je dirais dès la naissance. Très tôt, on lui apprend à rester en retrait, à faire attention au regard, à se maintenir, à faire attention à ses gestes. Tout ça est très important. Et tout ça au détriment de la libre expression. La femme algérienne n'est pas infibulée, son corps n'est pas excisé non plus. Mais c'est la personne tout entière qui est très tôt marginalisée et coupée de son histoire à travers la coupure de son environnement.
Oui, ceci est très juste. Et moi, je me demande dans quelle mesure il y a une pudeur propre, étant donné cette intervention massive et profonde, non seulement sur l'esprit par les normes culturelles, mais sur le corps. Il y a une discipline du corps dès le départ, ce qui lie par conséquent les manifestations de ce que nous appelons, à mon avis, improprement la pudeur, à des comportements réflexes. Comment parler de la pudeur? Nous avons l'habitude, même dans toutes les sociétés, même en Occident, où on a pris maintenant une très grande distance vis-à-vis de toutes les manifestations anciennes de pudeur, elle est également liée à la socialisation, à l'éducation, qui commence très tôt, aussi bien vis-à-vis du garçon que vis-à-vis de la fille. Évidemment, les phénomènes que nous observons encore aujourd'hui dans les sociétés dites musulmanes sont particulièrement frappants parce qu'ils nous ramènent à ce que nous pouvions observer en France au XVIIe siècle ou au XVIe siècle ou même avant que n'interviennent, comme je l'avais dit, les phénomènes de la modernité. Alors, donc, ceci, je voudrais souligner la difficulté qu'il y a à parler de la pudeur comme vertu, comme on en a toujours parlé dans toutes les cultures. C'est la première fois que nous abordons ce sujet-là, qui est un sujet très riche, sous un angle véritablement analytique, critique, scientifique, faisant intervenir plusieurs disciplines à la fois, y compris la neurobiologie. Et la notion d'individu qui émerge en Occident et qui est liée justement à cette conquête d'une autonomie intérieure pour résister au conditionnement de la société sur l'individu, ça c'est un phénomène moderne. C'est ce qu'on appelle la modernité. La modernité de l'individu comme foyer autonome de liberté se déterminant par une prise de distance constante à l'égard de toutes les normes qui viennent le conditionner, même dans nos sociétés modernes actuelles. Alors le phénomène en Occident, c'est cela. Et ce qui fait que nous grossissons les choses nécessairement lorsque nous retournons à des sociétés qui n'ont pas accompli ce trajet de modernité, c'est parce que, encore une fois, dans ces sociétés, le parcours historique qui a été effectué par l'intériorité de l'homme en relation avec cette notion d'individu qui est caractérisée par la distanciation par la raison qui réfléchit vis-à-vis de tous les phénomènes qui l'entourent, ce parcours-là, qui est un parcours historique et psychologique et culturel, n'est pas effectué dans les cultures dont nous parlons.
C'était Un temps pour la pudeur par Catherine Soulard, avec la participation de Mohamed Akroun et Noria Alami, texte lu par Jean Bollery, chargé de réalisation Nicole Salerne. Demain, l'art de la pudeur.